RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Et bienvenue dans le magazine des sports, Radio Rythme Bleu. Et on salue bien sûr notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et pour débuter votre magazine, direction Paris.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB, avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Ah oui, les Jeux Paralympiques, pour ouvrir ce magazine des sports, on va commencer, Michael Juneski, par les Calédoniens engagés dans les épreuves dans la capitale, mais pas de médaille pour Pierre Fairbanks sur le 400 mètres fauteuil.
Et oui, ce matin, à 53 ans, Pierre Fairbanks a terminé à la 6e place d'une finale, il faut bien le dire, très relevée, remportée par le redoutable Thaïlandais Paeo. Le natif de Yengen, Pierre Fairbanks, a terminé, lui, sur un temps de 50 secondes 37 centièmes. Une grande joie tout de même pour Pierre Fairbanks, le champion paralympique de Sydney en 2000, double champion du monde en titre, d'avoir atteint ce niveau et encouragé par tout le public en métropole.
Je suis content d'avoir pu quand même faire ce 400 mètres et vivre ce moment historique avec le public. Déjà dans ma course, il y a le Thaïlandais qui a un an de moins que moi, 52 ans. C'est vrai qu'en handisport, on a tendance à courir un peu plus âgé, mais tant que le plaisir est là, je reste jeune, je fais plaisir à ceux qui m'encouragent, qui m'aident au quotidien pour performer. Et voilà. Dommage pour eux, je n'ai pas pu faire une médaille.
Et Pierre Fairbanks qui sera encore engagé sur les épreuves du 800 mètres T53. Félicien Siapo disputait quant à lui à 21 ans le 100 mètres T44. Il a réussi à terminer au pied du podium, un chrono de 11 secondes 66 centièmes, très proche du vainqueur, le Sud-Africain Mpulelo Mlongo, et surtout un record d'Europe à la clé pour le Calédonien. Performance qui reste plus qu'encourageante pour la suite de la carrière de Félicien Siapo. On rappelle que ce week-end, Vittorio Cavacava avait terminé 7e de la finale du lancer de javelot. On le retrouvera encore engagé le week-end prochain en finale du lancer de poids.
Alors un coup d'œil, Mickaël, aux médailles pour la délégation tricolore aujourd'hui.
Oui, les Français qui ont tout de même décroché 9 nouvelles médailles, dont 3 en or, avec en point d'orgue Emeline Pierre sur le 100 mètres nage libre S10. Une joie immense pour celle qui était déjà en lice au dernier jeu à Tokyo. On l'écoute.
Franchement, j'ai aucun souvenir de la course. J'ai juste essayé de le gérer à ma manière, comme je sais faire avec mes forces. J'étais stressée, j'ai pas réussi à dormir de la journée. J'avais juste envie de bien faire et de monter sur la boîte. Il y a 2 ans, j'étais au fond du trou après Tokyo. J'en ai vraiment bavé. Ma santé mentale, elle était au plus bas. C'est extraordinaire. Je remercierai jamais assez mes proches. C'est fantastique.
Allez, encore des médailles d'or pour des Français. Tanguy de la Forest s'est lui imposé en tir sportif 10 mètres carabine à air, position couchée mixte SH2. Et puis Marie Patouillet en cyclisme sur piste sur la poursuite individuelle C5, une finale d'ailleurs 100% française puisqu'elle faisait face à Heidi Gauguin. On rappellera encore cette belle médaille d'argent également pour Gloria Agbek-Magnon en lancer de poids F20, la France qui est désormais donc 5e du classement des médailles, un total de 26 récompenses, 6 médailles d'or, 9 médailles d'argent, 11 médailles de bronze. La Chine est en tête déjà, 71 podiums et 33 titres pour les Chinois. Ils devancent le Royaume-Uni et les États-Unis et les Brésiliens qui sont en 4e position.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
La suite de ce magazine des sports, c'est l'actualité du football avec le point sur la 3e journée de Ligue 1.
Un choc au sommet au parfum de Coupe d'Europe qui a tourné en clôture à l'avantage du PSG face à Lille. Lille également engagée en Ligue des Champions. Succès donc des Parisiens, 3-1. Mais un fait de jeu reste en travers de la gorge des Lillois. L'égalisation à 2-2 refusée pour un hors-jeu inexistant en fin de rencontre. Là où la VAR n'a pas été utilisée alors qu'elle aurait changé la physionomie de la fin du match. Le président de Lille, Olivier Létang, ne décolère pas.
C'est la grosse frustration de la soirée, pour pas dire plus, parce qu'on est à 2-2 à ce moment-là du match, il reste 8 minutes, on est en train de pousser, et donc finalement on sait pas ce qui serait passé. J'ai très mauvaise en fait, je suis très 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 énervé par rapport à ça, et encore une fois, comme d'autres, on met des millions d'euros sur la table, et puis finalement demain on dira non mais le Paris Saint-Germain a gagné, alors qu'on était à 2-2 à 8 minutes de la fin.
Les autres résultats du jour, Monaco et Lens se sont quittés sur un nul, 1-1, Nice a battu Angers, 4-1, Le Havre a dominé Auxerre, 3-1, enfin Reims s'est imposé sur Rennes 2-1. On rappellera du week-end les succès de Lyon sur Strasbourg 4-3, de Brest sur Saint-Etienne 4-0, des Nantais d'Antoine Comboiré à Montpellier 3-1 et de Marseille à Toulouse 3-1 également. Alors au classement, le PSG reste en tête, désormais seul club à avoir gagné tous ses matchs depuis la reprise. Marseille est deuxième juste devant Nantes, Monaco est au pied du podium, Lille est en sixième position, Lyon remonte à la 14e place derrière l'AJ Auxerre, tandis qu'Angers est avant-dernier et Saint-Etienne lanterne rouge.
Allez, le point sur les autres championnats européens, notamment en Espagne où Kylian Mbappé a marqué les deux premiers buts.
Oui, dans le championnat espagnol, le capitaine de l'équipe de France qui s'illustre avec le Real Madrid, doublé victorieux contre le Betis Séville 2-0. Hier, le Barça avait étrié Valladolid 7-0 et l'Atlético Madrid avait battu l'Athletic Bilbao 1-0. En Allemagne, le Bayern Munich a dominé Fribourg 2-0. Dans le calcio italien, un match nul entre la Juventus et l'AS Rome 0-0. L'Inter Milan avait dominé ce week-end l'Atalanta Bergame 4-0. Enfin, en Angleterre, Manchester United a subi la loi de Liverpool. Succès des Reds 3-0. Arsenal n'a pu faire mieux qu'un nul face à Brighton, un but partout. Et Manchester City a dominé West Ham 3-1.
L'actualité du rugby, il faudra attendre la semaine prochaine pour la reprise du top 14. En attendant, on a suivi la troisième journée du tournoi des Nations de l'hémisphère sud.
Et la Nouvelle-Zélande qui a subi une deuxième défaite dans la compétition en Afrique du Sud. Les Springboks l'ont emporté 31-27 face aux All Blacks. De leur côté, les Wallabies australiens arrachent la victoire en Argentine 20-19. Les Sud-Africains, toujours invaincus, sont en tête du Rugby Championship devant les All Blacks, les Pumas argentins et l'Argentine. Et l'Australie, pardon, qui est en dernière position.
Allez, on passe au tennis avec l'US Open qui continue de livrer son lot de surprises.
Il ne fait pas bon être une tête d'affiche cette année à l'US Open après l'élimination de Novak Djokovic. C'est la tenante du titre chez les féminines qui a été battue en 8e de finale Coco Gauff, sortie par sa compatriote américaine Emma Navarro, 6-3, 4-6, 6-3. Dans le tableau, messieurs, le russe Andrei Rublev l'a emporté en 8e de finale sur le bulgare Grigor Dimitrov. Match très serré, 6-3, 7-6, 1-6, 3-6, 6-3. Le norvégien Casper Ruud s'est aussi qualifié aux dépens de l'américain Taylor Fritz, 3-6, 6-4, 6-3, 6-2.
Les États-Unis, c'est aussi le golf avec le succès de Scottie Scheffler dans le dernier tournoi de la FedEx Cup.
Oui, victoire sans appel de l'américain qui a terminé à moins 30, 4 coups d'avance sur Colin Morikawa. C'est déjà son 7e trophée cette saison. A souligner la très belle performance du premier français qui disputait ce Tour Championship et les play-offs de la FedEx Cup. Mathieu Pavon a terminé à la 17e place.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 avec un jour de fête pour la Scuderia Ferrari. Charles Leclerc a triomphé au Grand Prix d'Italie.
Victoire surprise du Monégasque à Monza sur les terres de la Scuderia. La stratégie a été payante pour Ferrari. Un seul arrêt en course pour devancer les McLaren d'Oscar Piastri et Lando Norris. C'est le deuxième succès en carrière de Charles Leclerc après Monaco cette saison.
C'est des sensations qui sont uniques. Entre Monaco et Monza, c'était vraiment les deux courses qui m'ont fait rêver depuis tout petit. Donc si on avait deux à choisir, je ne pouvais pas rêver mieux. Surtout avec tous les fans, les tifosi qui en piste, c'est juste exceptionnel.
Lewis Hamilton, de son côté, s'est classé 5e devant Max Verstappen, le leader du classement mondial. Décidément bien en difficulté pour cette deuxième partie de la saison. Les Alpines des Français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont fini respectivement 14e et 15e.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Restons dans les sports mécaniques pour parler MotoGP. Marc Marquez renoue avec la victoire.
L'Espagnol a remporté le Grand Prix d'Aragon devant Jorge Martin. C'est sa 60e victoire en carrière. Son premier succès toutefois depuis 2021. Francesco Bagnaia, lui, a chuté à 6 tours de l'arrivée et il a perdu au passage la tête du championnat du monde au profit de Jorge Martin. Le français Juan Zarco a terminé à la 14e place tandis que Fabio Quartararo a dû abandonner après une chute dès le 6e tour.
Du cyclisme maintenant et restons en Espagne sur la Vuelta avec une nouvelle victoire espagnole sur la 15e étape.
Oui, Pablo Carreño qui s'est imposé devant le russe Alexander Vlasov et le français Pavel Sivakov. Au classement général, l'Australien Ben O'Connor est toujours leader avec seulement 1 minute 3 secondes d'avance sur le redoutable Slovène Primoz Roglic.
Et puis un mot de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est le français Vincent Bouillard qui a remporté la 21e édition de cette course hors norme avec 176 km en montagne. Il a parcouru le tout en 19h54 minutes et 23 secondes. Une pause dans ce magazine des sports. Dans un instant, on se retrouve pour parler du sport en Calédonie et notamment d'une discipline qui est à l'arrêt comme beaucoup d'autres, le baltrap. On fera aussi un point sur les Jeux du Pacifique. Vous comprendrez pourquoi dans un instant.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Et donc, Michael, pour ouvrir cette page consacrée au sport calédonien, je le disais il y a un instant, nous allons parler de l'actualité du baltrap, mais aussi des Jeux du Pacifique avec notre invité.
Exactement, Marion Romagne, bonjour.
Bonjour.
Donc, vos doubles casquettes, à la fois président de la Ligue calédonienne de baltrap et évidemment président de la commission des Jeux du Pacifique au CTOS. On s'intéresse tout d'abord au baltrap. Bon, comme la plupart des disciplines, évidemment, hein, c'est un coup dur hein, depuis le début des troubles qui touchent la Nouvelle-Calédonie, si j'ose dire. Pour le baltrap, c'est la double peine. Où en est-on ? C'est tout simplement une impossibilité de voir plus loin que la fin d'année.
Hein. C'est exactement ça. C'est qu'avant la fin de l'année, on n'a aucune vision. Actuellement, depuis le 13 mai, on a eu un coup d'arrêt terrible. Double punition pour nous, parce que nous, on a le problème, c'est qu'on ne peut pas reprendre avec les interdictions qu'il y a sur le territoire de transport d'armes et puis tout. Donc, c'est une double peine. Si certaines disciplines peuvent reprendre leur activité, nous, elle est impossible pour le moment, parce qu'on doit se plier au couvre-feu et puis aux contraintes qu'on a sur le territoire actuellement. Donc, tous les clubs sont à l'arrêt. On a des clubs qui sont dans le nord, on a des clubs du nord qui sont encore plus embêtés que nous parce qu'il y a proximité un peu dangereuse où ils peuvent pas redévelopper, réouvrir les clubs et puis tout parce que ça ferait vraiment. Nous sur Nouméa, on espère avoir les autorisations assez rapidement où on pourra reprendre les activités. Il y a des demandes en cours, donc on essaiera reprendre la partie sportive, purement sportive. Et puis j'espère que le gouvernement, enfin les autorités vont nous entendre pour pouvoir reprendre au plus vite nos activités sportives sur le territoire.
Avant de parler de la partie compétition, hein, avant tout, ben pour les pratiquants, hein, tout à chacun qui apprécie, qui voulait découvrir cette discipline, le constat, on s'attend à vivre des années noires, hein, véritablement.
Ah ben c'est déjà une année noire, c'est une année qui va finir on va finir en mauvaise posture parce que on a les pratiquants ceux qui font les compétitions, tous ceux-là je pense qu'ils vont continuer la pratique, mais il faut savoir que comme dans tous les sports on a aussi les pratiquants du week-end comme on dit, ceux qui viennent se détendre, ceux qui viennent faire la discipline pour pouvoir passer un bon moment et puis tout, et ben ceux-là on va certainement les perdre. Heureusement qu'on avait fait quand même 60%, 60-70% des pratiquants avaient déjà pris leur licence, donc le contre-coup cette année, je pense qu'on va perdre une trentaine de pourcents sur nos licences, mais l'année prochaine à mon avis ça va être une année très noire. On avait déjà subi ça le post-Covid où on avait perdu une grosse partie de nos licenciés, et là je peux vous dire que ça va être plutôt économique, quoi. Économique, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de pratiquants qui ont des petites sociétés et puis tout, qui ne peuvent pas travailler en ce moment ou qui travaillent très peu. Donc forcément, c'est forcément le sport qui va en pâtir. Quoi.
Ouais, le baltrap, il faut le dire, c'est une discipline qui coûte cher et évidemment, par les temps qui courent, c'est pas la priorité pour pas mal de pratiquants.
C'est exactement ça, c'est une discipline qui coûte assez cher. Il faut investir dans une arme, il faut après payer ses cartouches, payer ses tirs, ses cibles. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens, et puis on le voit déjà, hein, qui, même s'ils ont des licences, ils ont un peu disparu du paysage, quoi.
Alors pour la partie compétition, là évidemment, les championnats, tout ce qui était en cours, vous avez dû stopper, hein, ça, cela va sans dire.
Ah ben bien sûr, tout le calendrier a été arrêté. On avait des grosses échéances qui devaient, des championnats de ligue, des coupes de Nouvelle-Calédonie, aussi bien à Nouméa que dans le nord. Donc tout ça, ça a été suspendu. On a tout remis. On n'a même pas refait de calendrier puisqu'on n'a pas de vision sur nos prochaines. Quand est-ce que ça va se libérer ? Donc on peut même pas remettre un calendrier en place. On espère pouvoir le faire. Si ça se débloque éventuellement sur les armes et sur les cartouches, on pourra reprogrammer sur les 2-3 derniers mois de l'année, 2-3 compétitions, pour au moins ne pas perdre. Pas perdre la main pour les meilleurs et puis d'essayer de garder la discipline en vie, parce que c'est la mort, ça peut être la mort de notre sport.
Justement, pour les meilleurs, hein, puisque à chaque fois, à chaque année, il y a certains de nos représentants qui s'illustrent, donc il faut bien le dire, hein, dans des compétitions régionales, internationales, au niveau national. Où en est-on là aussi? C'est à l'arrêt total.
Tout a été mis à l'arrêt. Il y a eu, on a pu partir sur le début de l'année sur quelques compétitions internationales dans le Pacifique, sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc il y a des gens qui ont pu se déplacer, mais depuis, tout a été mis à l'arrêt. Et puis je peux vous dire, nous, c'est quand même un sport de mental. Il y a la pratique du blatra, c'est beaucoup du mental. Et dans le mental, ben, les gens n'ont pas le mental pour se déplacer. Donc, je n'ai même pas eu de demande actuelle. J'ai aucune demande pour pouvoir sortir du territoire. Les gens n'ont pas le mental, à mon avis.
Et là, pour les années qui viennent également, impossible de programmer voilà, les équipes de Calédonie, notamment, qui étaient parfois engagées dans des compétitions, les Océaniens.
On a une équipe de Calédonie à préparer pour Tahiti 2027 parce qu'on fait partie des Jeux du Pacifique. Et bien on est toujours médaillé sur les Jeux du Pacifique. Le Baltrap, c'est quand même un pourvoyeur de médailles en or, en argent et en bronze. Donc on arrive toujours à faire des médailles sur les Jeux. On a les Jeux de 2027, Tahiti, on est prévu sur les Jeux. On sait que les Tahitiens sont très forts, mais nous, on est aussi forts qu'eux. Mais là, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que si on ne prépare pas l'équipe à partir de cette année... On va dans le mur, quoi. Ça va être tout ce qu'on a perdu là, c'est irrattrapable après.
On va justement parler des Jeux du Pacifique juste après, mais une dernière question concernant véritablement le Baltrap au jour d'aujourd'hui. Vous craignez véritablement pour l'avenir de la discipline ?
Tout à fait. On craint pour la discipline. C'est des petites ligues qui sont très actives et puis qui... Mais c'est pas, on fait partie des petites ligues en Nouvelle-Calédonie et si ça ne reprend pas rapidement et si on n'a pas les moyens de reprendre rapidement. Le peu qui nous reste, on risque de le perdre. Et là, c'est la fermeture des clubs. Je ne joue pas le scénario catastrophe, mais il faut quand même faire attention de ne pas perdre ces disciplines sur le territoire.
Alors, votre casquette également hein, pour la préparation, tout d'abord à court terme, des mini-jeux du Pacifique. Vous êtes responsable hein, de la commission concernée au CTOS. C'est dans moins d'un an. Et là aussi, le constat est grave, hein, puisque impossibilité de se préparer. Où est-ce qu'on en est?
Vous avez tout dit, la situation
est... On a fait court,
voilà, c'est très grave, c'est très grave parce qu'on est dans le flou complet. On essaie de contacter, on a des réunions avec les ligues concernées, ceux qui vont partir sur les jeux, sur les mini-jeux déjà. Sur les jeux, on verra plus tard, mais sur les mini-jeux, donc l'échéance, on est à moins d'un an de
Palau. 29 juin au 9 juillet.
Voilà, on est maintenant à moins d'un an. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à moins d'un an, on devrait avoir au moins fait la moitié du chemin en termes de préparation. Et bien, cette préparation-là, elle n'a pas du tout commencé. On a juste fait des réunions pour faire le point avec les disciplines, savoir où ils en sont, est-ce qu'ils ont comment le potentiel d'envoyer une équipe sur les mini-jeux. Ce qu'on leur demande, nous, c'est que de faire comme si, c'est-à-dire préparez-vous et sans leur promettre mon émerveil derrière, parce qu'on sait très bien que financièrement, ça va être très difficile. On ne sait pas du tout, nous, le CTOS, actuellement, où on va, à quelle sauce on va être mangé et si on va avoir un budget pour partir au mini-jeu. On a fait des prévisions, on a fait trois prévisions différentes en emmenant une délégation déjà réduite, c'est-à-dire au mieux, ça sera 150 personnes sur des jeux qui prévoyaient quand même pour la Calédonie 220 personnes. C'est des gros mini-jeux qu'on va avoir au Palau, parce qu'il y a des sports comment par équipe et puis tout. Il y a des sports individuels, mais on a aussi des sports par équipe de prévu. Donc c'était des gros mini-jeux. De 220, 230 personnes, ben on a déjà réduit d'office à 150 personnes. Mais 150 personnes, c'est que des prévisions CTOS. On va peut-être emmener que des médaillables ou on va emmener peut-être que des médailles d'or ou on va finir peut-être à 10 participants juste pour faire de la représentativité. Parce que quand même, à Calédonie, au niveau pacifique, il faut savoir qu'on est on a toujours été dans les meilleurs. Et on est les meilleurs puisqu'on a gagné les derniers Jeux, mais... Ça risque d'être très difficile d'emmener une équipe complète de Nouvelle-Calédonie. Il y aura certes de toute façon pas une équipe complète, mais après quel format, qu'est-ce qu'on va avoir comme budget? Pour l'instant, on est dans le flou complet, on n'a aucune réponse, aucune prévision peut être faite, quoi.
Dans tous les scénarios que vous imaginez, hein, en guise de conclusion, tout de même, on garde un espoir. Il y aura au minimum une représentation de la Calédonie dans ces Jeux. Il y a forcément matière à espérer. On ne va pas partir sur le scénario catastrophe.
L'espoir fait vivre, bien sûr, mais il faut se mettre au diapason du pays. On sait très bien qu'il y a d'autres priorités, bien que le sport soit très... C'est quand même, il faut garder le sport quand même. J'espère que, quand j'entends que le football a arrêté et puis tout, ben, j'espère qu'ils vont vite reprendre parce que c'est quand même fédérateur. Hein. Tous les sports sont fédérateurs. Donc j'espère que pour nos jeunes et puis tout, qu'on va vite reprendre les sports, qu'on va vite les envoyer sur les jeux de Tahiti et une partie sur les mini-jeux pour pouvoir redémarrer le sport en Nouvelle-Calédonie, parce que je pense que si ce n'est pas une priorité financière, il faut que ça reste quand même une priorité dans le pays pour relancer le pays.
Le message pour la jeunesse, c'est bien noté. Merci encore en tout cas, Marion Romagne, d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci à vous.
Allez, on va terminer avec quelques résultats sportifs du week-end, et notamment hier dimanche, le Yala Trail de Dumbéa.
Oui, première course en pleine nature depuis plusieurs mois. Hein. Tous les trails étaient évidemment annulés. L'événement a réuni près de 800 coureurs heureux de se relancer à l'assaut des sentiers de Dumbéa. Écoutez leur réaction.
Il fait chaud en effet, surtout en haut de la crête. En plus, c'était assez glissant avec sorte de sable, mais quand on est en haut, c'est magnifique.
Un beau parcours, sympa. Ça fait du bien de remettre un dossard aussi. Le site, il est agréable.
Ça redonne envie et en plus, le parcours était très très beau et super bien balisé. Vraiment, ça valait le coup de le faire. C'était très technique par contre. À la montée des vestiges là, ça tapait bien. Mais après, c'était très très technique et c'était ça que j'ai aimé, quoi.
Je trouvais aucune course, donc là, retrouver des terrains et en plus dans un cadre comme ça, ça fait vraiment plaisir. Et les sensations étaient bonnes, donc je suis ravi d'avoir participé à la course.
Et côté résultat sur la course Rennes, le trail de 15 km, 900 mètres de dénivelé positif tout de même. C'est Steve Juignet, membre des Forces armées de Nouvelle-Calédonie, qui s'est imposé 1h30min 26s d'effort. Juste derrière lui, en deuxième position, la première féminine, Claire Jacquin. Du football également, il y avait la suite du trophée du Grand Nouméa, hein, qui rassemble 9 équipes de Super League et de PH. En attendant, hein, toute reprise pour le football. Parmi les résultats, Tigasport a battu Dumbéa 4-1. La deuxième journée se terminera demain soir à 18h. Melek contre Gaïcha à 19h45. L'AS Magenta face à l'OSI. En voile, les qualifications du 17e trophée des jeunes marins. Ça se passait ce week-end au large de Nouville. 4 manches de J70 au programme. C'est l'équipage d'Alexandre Sandy qui l'emporte. Ces deux, les équipages qui rencontreront ceux de la province Nord et de la province des Îles du 14 au 18 octobre. Ça sera cette fois la grande finale. Et puis un mot d'équitation, un concours de dressage organisé par les Cavaliers de Dumbéa. Succès de Sophie et Kestemen sur Cassia de Rose en club élite, de Laure Kalinowski sur Krypton du Carima en jeune chevaux de 4 ans, de Nelly Joss sur Vedette du Marais en amateur 2 et d'Amandine Gaïa sur Utopia de la Wimbo en amateur 3.
Et puis il y a des athlètes calédoniens qui se sont distingués hors du territoire.
Ouais, tout d'abord ce titre de champion de France de tennis pour Maxime Chazal en métropole pour la 4e fois de sa carrière. Il remporte le sacre en deuxième série à Blois à l'âge de 31 ans. Il est en forme actuellement au 390e rang du classement mondial. Il avait déjà gagné ce titre en 2015, 2018 et 2022. Il nous a fait part de sa réaction à l'issue de la finale.
Ça fait toujours plaisir, surtout de gagner un titre. Après là, c'est la 4e fois que je le gagne. Donc je suis le seul à l'avoir gagné 4 fois. Donc c'est toujours quelque chose, voilà, qui fait quand même plaisir, qui donne de la confiance. Et j'espère que je vais réussir à surfer sur cette confiance-là pour le reste de ma saison, plutôt sur les tournois internationaux. Voilà, vu que je joue toujours le circuit, donc voilà, j'espère surfer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Voilà, après ça enchaîne. C'est quand même cool d'avoir fait une semaine sans défaite. Ça arrive pas très souvent dans une saison. J'essaie de garder ce positif-là.
Maxime Chazal dans le vent en métropole, vous l'avez entendu, il a à peine eu le temps de célébrer ce sacre puisqu'il est déjà en Espagne à l'assaut d'un challenger dans la ville de Séville. On rappelle qu'il a gagné 3 titres ITF cette saison sur ses 14 victoires en carrière. Et puis toujours en métropole, du cyclisme sur piste et cet excellent résultat pour Hervé Salin en Coupe de France à venir à Fégnoux. Notre jeune représentant s'est classé 2e de la vitesse chez les moins de 19 ans.
Et puis terminons par ce double événement au golf de la Wengi. Hier, plus de 100 golfeurs ont participé au tournoi de reprise du club, le premier depuis le début des émeutes. Mais surtout, un homme a été distingué, Dino Sassilotto, le fondateur des paillotes de la Wengi et du golf. La famille Guépy et le monde du golf calédonien s'est mobilisé pour que la Fédération française de golf lui décerne sa médaille d'honneur, qui lui a été remise par la vice-présidente de la Ligue calédonienne de golf. Une médaille d'honneur pour Dino Sassilotto qui est méritée à plus d'un titre, a expliqué Georges Guépy, le président du golf club de la Wengi.
C'est le pionnier, c'est le créateur, c'est le bâtisseur. Donc on ne pouvait pas laisser passer cette reprise que nous attendions depuis si longtemps sans nous référer à lui. Parce que sans lui, on ne serait pas là. Il a créé ce golf dans les années 90, il a ouvert le club, il a été créé le club en 1993. Et ce qu'il faut surtout dire, c'est que les paillotes ont été faites de sa main, avec son beau-frère et des aides bien sûr, mais les paillotes de la Hongrie ont été créées par Dino Sassilotto en personne.
Cette distinction remise à Dino Sassilotto est un événement que le maire de Boulou-Paris, Pascal Vittori, ne voulait pas rater.
À double titre, d'abord parce que c'était la reprise des compétitions après tout ce qu'on a connu et les difficultés de la commune et de la Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite, parce que Dino était mis à l'honneur, il a reçu la médaille de la Fédération française de golf. Et franchement, je tenais à être là parce que Dino, c'est une des personnalités qui ont construit Boulou-Paris, le Boulou-Paris d'aujourd'hui. Et c'est vrai que sans le golf club, sans les paillotes de la Hongrie, Boulou-Paris ne serait pas Boulou-Paris. À la fois, l'hôtel-restaurant et le club renforcent énormément l'attractivité de Boulou-Paris. Et donc on a besoin d'eux pour pouvoir continuer à apporter du développement à Boulou-Paris, à développer le tourisme, un tourisme raisonné. Mais en tout cas, c'est un élément essentiel. Et puis en plus, c'est une personnalité très attachante.
Dino Sassilotto, une personnalité très attachante, mais aussi un homme discret qui a toutefois été touché par cette distinction.
Je n'aurais jamais pensé d'avoir ces cadeaux. Je ne pensais pas du tout. Merci à la Fédération. Merci beaucoup. C'est la reconnaissance d'avoir que les gens ils passent quand même à nous. C'est vraiment quelque chose.
Voilà, Dino Sassilotto qui a donc reçu hier la médaille d'honneur de la Fédération française de golf. Il est midi et 28 minutes, c'est la fin de ce magazine des sports du lundi. Jusqu'à 13h, c'est Thierry qui vous accompagne et à 13h, ce sera évidemment le rappel des principaux titres de l'actualité.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.